Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
Auditeurs et auditrices de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui dans Musique traditionnelle, je retrouve Marthe Vassallo qui nous parle depuis la Bretagne. Bonjour Marthe.
Bonjour.
Alors la semaine dernière, nous avons terminé sur un superbe morceau et nous n'avons pas eu le temps d'en parler. Donc je vous laisse la parole pour ça parce que c'était un morceau qui me paraissait très important.
Il a son importance dans ma vie aussi. C'est un morceau d'un duo qui s'appelait Bugle Choir, que je formais au début des années 2000 avec Philippe Olivier, accordéoniste, bandoneoniste, compositeur, ingénieur du son et créateur aujourd'hui d'un logiciel de boucle sonore avec des possibilités hallucinantes qui s'appelle Logeloop.
Rien que ça,
ouais, exactement. Ouais, c'est difficile de pas se sentir un petit peu complexé à côté de Philippe Olivier.
Bah bonjour à lui, hein.
Et Bugle Choir, c'était une aventure très très intense pour tous les deux. C'était quelque chose de très important dans nos vies aussi. Et on parle toujours des musiciens comme s'ils sortaient tout terminé de la coquille d'œuf, quoi. Quand on demande leurs influences aux gens, ils vont citer les musiciens qu'ils adorent ou ils vont citer les profs qu'ils ont eus. Et on oublie souvent de citer ses collègues. Et moi, j'ai été énormément formée par mes collègues. On a entendu Roland Guéblaise dans l'épisode précédent. Plus tard, on entendra Nolwenn Le Buet, Annie Ebrel. Et là, la collaboration avec Philippe, ça a été l'occasion pour moi d'apprendre un milliard de choses. Et donc, on a fait ces deux albums et deux spectacles qui étaient vraiment des spectacles de théâtre musical. Donc là aussi, on a appris beaucoup, beaucoup de choses dans les...
Alors, comment ils s'appellent ?
Alors, le premier album s'appelle Arzolier.
Oui.
Et celui dont on avait entendu un morceau la semaine dernière, c'est Nebaon. C'est des albums tous les deux du début des années 2000, donc bon courage pour les trouver maintenant.
C'est des collecteurs, il faut aller chercher.
Vous les trouverez sur les réseaux, il y en a un certain nombre qui ont été mis en ligne. Ce qui est marrant avec l'histoire de Bugle Choir, c'est que il n'y a jamais eu un énorme succès au rendez-vous pour Bugle Choir, et en même temps c'est des projets qui n'ont pas arrêté de faire des petits parce que des gens ont été touchés très très fort par certaines choses qu'on disait. Et la chanson qu'on avait entendue l'autre jour, elle parle de la façon dont, y compris au cœur des ténèbres les plus cauchemardesques de ce que les humains peuvent faire à d'autres humains, il y a de temps en temps quelqu'un qui a un petit geste, un petit mot, quelque chose, alors quelque chose qui ne va pas le sauver, qui ne va pas changer la face du monde, et qui en même temps montre que l'humanité est toujours là, et qu'il y a quelque chose qui résiste à tout, et qui peut parfois résister à tout. Et c'est inspiré par une anecdote racontée par l'écrivain Charlotte Delbault, qui était elle-même résistante et déportée à Auschwitz, et qui a fait des recherches sur toutes les femmes qui étaient dans le même train qu'elle, direction Auschwitz. Et elle raconte, je vais pas trop détailler, mais elle raconte un geste d'amour d'une mère qui est extrêmement frappant. Et alors cet album est ce morceau-là en particulier a touché, entre autres, un comédien qui s'appelle Paul Tison. Et une quinzaine d'années après, douzaine d'années après la sortie de l'album, on a été contacté par Paul qui nous dit « Je travaille sur un spectacle de clown poétique sur une jeunesse de jeunes gays en milieu rural. »
Eh ben
Et j'ai été inspirée par les chansons de cet album. Alors, c'était curieux pour nous, c'était magnifique, il y a un immense honneur, et c'était très curieux à vivre en même temps, parce qu'évidemment, l'album ne parle pas de ça du tout. La thématique de l'album, c'était les choses qui font peur.
Oui.
Et en même temps, bah, Paul a senti plein de choses qui résonnaient de l'histoire qu'il voulait raconter, qui est en partie la sienne, en partie celle des gens qu'il aide dans une association. Et il a senti que plein de choses qu'on racontait résonnaient avec tout ça. Et ça, je trouve, c'est une des choses les plus fabuleuses qui peuvent arriver à un musicien, en fait.
De faire résonner à travers sa musique, même plusieurs années après.
Ouais, on écrit des choses à un moment, on les lâche dans la nature, et puis on ne sait pas à qui elles vont parler, et surtout on ne sait pas ce qu'elles vont dire à la personne. Et parfois,
oui,
on a des surprises absolument merveilleuses comme celle-là, où nos efforts artistiques ont aidé à un moment Paul à raconter une histoire qui avait vraiment besoin d'être racontée, et elle a raconté, en plus, il est magnifique son spectacle, il s'appelle à l'ombre du Ménébré. Et on l'a vu, enfin c'était une drôle d'expérience aussi de voir.
Est-ce qu'on peut le regarder sur les réseaux sociaux, vous croyez?
Alors je pense pas que le spectacle soit sur les réseaux sociaux. Il y a eu un court métrage qui n'est pas vraiment une bande-annonce, qui est un peu une création dérivée. Je ne sais pas exactement où ça se trouve, mais sous le nom Paul Tison. Paul Tison,
donc.
Vous retrouverez peut-être quelque chose.
Alors on va passer au morceau suivant qu'on va écouter tout de suite, et puis vous nous en parlerez après.
Colar huir présence à Figeac 97.7.
Nous sommes toujours en présence de Marthe Vassallo qui va nous présenter ce morceau qui se trouve sur le nouvel album, pas tout neuf quand même, de Gilles Lebuet en 2012, j'ai lu 2022, donc voilà, c'était ça.
Voilà. Alors c'était une autre rencontre, une autre collaboration très 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 importante, celle avec Gilles Lebigot et avec aussi Jean-Michel Veillon dont on entendait la flûte à la toute fin. Je vais faire l'enchaînement avec le jingle de Radio Figeac. créatif.
on demandera à Jean-Michel de nous en faire un.
Mais avec Gilles et Jean-Michel, on continue à faire des concerts, on a continué à travailler en trio après l'expérience Empreinte. Empreinte, c'était les projets solo de Gilles, donc Gilles, le guitariste, qui a réuni toute une équipe de musiciens autour de lui pour deux albums successifs. Alors j'ai un petit peu botté en touche là dans ma sélection de morceaux, parce qu'il y a un morceau qui est le morceau de cette collaboration-là dans les compositions de Gilles avec des paroles de moi, qui est sans doute ce que dans ma vie j'aurais fait de plus proche d'un tube. Et ça s'appelle En Disro, et je laisserai les gens aller chercher ça sur YouTube.
D'accord, très bien.
où ils en trouveront une très très jolie interprétation par Gilles, Jean-Michel, Ma Pomme et quatre musiciens invités par les Rencontres Polyphoniques de Calvi. C'est une très très jolie vidéo, il y a peut-être moyen d'en mettre le lien sur le site de la radio.
On demandera à Armand de faire ça.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est un peu un passager clandestin dans cette collaboration, parce que c'est la seule chanson de toutes celles qu'on jouait ensemble qui est composée par moi, paroles et musique.
Bravo.
C'est une histoire absolument lugubre d'histoire d'amour cachée. et en l'occurrence, là, le travail d'arrangement était aussi exceptionnellement plutôt mené par Ronan Pélène, qui jouait du sistre dans l'équipe d'Empreinte. Et je suis amoureuse du travail qu'il a fait là et de la réalisation sonore de Ludo Ménil. C'est bête à dire, mais je continue à être très très contente de cette place.
Ah ouais, c'est très bien, et il faut être content du travail qu'on fait. Hein. On leur passe le bonjour d'ailleurs, en même temps.
Absolument. Ronan Pélène, que les auditeurs connaissent peut-être bien en tant que musicien du Amou Martin Quintet.
Le fameux...
Entre autres,
c'est vrai.
Il collabore aussi avec Annie Ebrel, c'est un musicien magnifique et un grand copain aussi, il faut dire.
Non, ça arrange tout. Alors Marthe, vous êtes en train de nous parler des rencontres marquantes. Je suppose que c'est ce qui a fait que vous faites aujourd'hui beaucoup de musique, que vous faites du chant, de la composition, du conte, si j'ai bien compris, et que vous parlez breton. Alors est-ce que c'est parce que vous êtes né en Bretagne, ou est-ce que c'est comment vous en êtes arrivé là ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Ce qui m'est arrivé, effectivement, c'est de... Alors je ne suis pas physiquement née en Bretagne, pour des raisons familiales qui seraient compliquées à expliquer, mais mes parents habitaient en Bretagne longtemps avant ma naissance, et moi j'ai grandi donc sur la côte, sur ce qu'on appelle la côte de granit rose, d'après les offices du tourisme, et j'ai grandi...
C'est vrai que c'est du granit rose, c'est vrai.
Oui.
Bon.
Et j'ai grandi dans un coin en plus de la commune qui était resté encore un peu rural à sa façon, enfin un peu compliqué, mais bref. Et donc un endroit où la langue bretonne était très présente, mais en creux. C'est-à-dire qu'elle était présente dans l'accent qu'avaient les gens qui parlaient en français.
Oui.
Elle était présente dans quelques trucs écrits sur les monuments. Et puis, en revanche, les gens avaient bien soin de déjà, parce que à l'intérieur des terres, les gens gardaient plus longtemps une pratique du breton plus décomplexée, on va dire. Sur la côte, la bascule linguistique s'était faite plus vite et il y avait un complexe social plus fort, avec des gens qui étaient nés avec le siècle, pour beaucoup avaient eu une vie de domestique, mm-hmm. ou d'industrie du tourisme, ou les deux à la fois. Ils avaient profondément intégré le truc qu'on ne parle pas breton hors du cercle intime. Et donc, mm-hmm. Nous, du plus loin qu'on nous voyait arriver, on entendait bien de loin que les gens parlaient breton, mais quand on arrivait, ils passaient au français, à la fois par pudeur et par politesse. Et donc du breton, j'en ai en fait entendu remarquablement peu quand j'étais petite, mais c'était là partout pour autant. Et donc quand j'étais ado, j'ai eu envie de l'apprendre et je m'y suis mise très très vite. Après, il se trouve que je suis plus douée pour les langues que pour beaucoup d'autres choses dans la vie. Et donc c'est allé assez vite. Et chanter, je viens d'une famille où tout le monde chante pour lui-même, pas pour les autres, mais toute la journée, tout le temps, pour se faire plaisir, pour passer le temps. Et
vous venez d'une famille où le chant accompagne la vie de tous les jours. C'est quand même hyper important.
Mais c'est absolument pas de la performance, par contre. C'est vraiment strictement chacun pour soi. Ma maman chantait du matin au soir, tout et n'importe quoi, une phrase de ci, une phrase de ça. Et dans le tas, j'ai su bien plus tard qu'il y avait quelques chansons traditionnelles de son Poitou natal.
Ah, elle venait du Poitou, d'accord.
Ouais. Moi, je suis un enfant de la décentralisation. Hein. Mes parents sont arrivés en Bretagne parce que mon père était chercheur en télécom. Et qu'il y avait un centre de recherche en télécommunication qui venait d'ouvrir à Lannion dans les années 60. Et mes parents ont eu le choix entre ici les Moulineaux ou la côte de Granitro, ce qui était à l'époque un endroit qui paraissait relativement sauvage, donc, en tout cas vu de Paris. Mais mes parents étant eux-mêmes des gens assez sauvages, ils ont même pas hésité à se prendre.
D'accord.
Donc voilà pourquoi moi j'ai poussé là.
Voilà.
Et après,
c'est une graine.
Mmh. Après, pourquoi on chante, pourquoi on fait de la musique, c'est toujours une somme de dispositions et de c'est-à-dire de facilité. Hein, disposition, c'est ça. Hein, c'est qu'est-ce qui est facile pour vous, plus facile que d'autres choses en tout cas. C'est une somme de facilité, de besoins au pluriel, et puis de rencontres effectivement, ouais.
Est-ce que vous chantez alors vous chantez en fest-noz, mais vous êtes professionnel dans ce milieu-là.
Ah oui,
c'est vraiment votre métier de tous les jours.
Dire, absolument, oui, on peut dire que je suis chanteuse à temps plus que plein. Oui.
À temps plus que plein, d'accord.
Et donc parmi ces rencontres, entre nombreuses autres, il y a Nolwenn Le Buet qui est un peu celle de mes sœurs que mes parents avaient oublié de me faire.
D'accord.
Et puis Annie Ebrel, on était à la fac en même temps, en fait, toutes les trois. Et Annie, quand j'ai commencé, Annie était une des rares chanteuses à avoir un peu pignon sur rue déjà. Annie était déjà chanteuse depuis des années. Du haut de mes 17 ans, j'étais allée la trouver, lui demander si elle voulait bien m'apprendre quelques chansons. Et donc, parmi les toutes premières chansons que j'ai apprises, il y a celle qu'Annie a eu l'extrême gentillesse de m'apprendre. Et puis, au même moment, donc, j'ai fait la rencontre de Nolwenn. Nolwenn et Annie commençaient à chanter ensemble. On a été un peu dans la même bande d'étudiants. Et puis avec Nolwenn, ça a été le début d'une grande conversation sur absolument tout, y compris le chant traditionnel, la vie de chanteur, et puis mais aussi la vie tout court. Et voilà, une conversation qui dure depuis plus de 30 ans. Et à un moment donné, les gens nous voyaient chanter, les gens voyaient Annie et Nolwenn chanter ensemble en couple de Corne à Discorne, de chant à danser, et puis Nolwenn et moi on faisait des concerts de chant à écouter plutôt de temps en temps, et puis à un moment donné il y a eu une demande de plus en plus forte de nous voir toutes les trois sur scène.
Wow.
Et mm-hmm. on a fini par céder. Et c'était l'occasion aussi de se demander, on est, pour le coup, nous on est trois chanteuses de chant traditionnel, donc on est, en d'autres termes, on est des solistes par nature, on est des solistes. Le chant traditionnel breton, je le répète, au départ, c'est de la monodie. Et donc, pour les chanteurs, c'est de la monodie a cappella, solo. Et partant de ces points-là, de cet art auquel on est très, très attaché chacune, comment on peut, puisqu'on est trois, on a trois voix, comment on peut travailler à trois voix pour mettre en valeur et déclarer notre amour à cet art de la monodie. Et donc on a créé un certain nombre de morceaux polyphoniques, mais qui ne suivent pas une logique d'arrangement. C'est pas on a une chanson et puis on va lui tricoter un accompagnement à plusieurs voix. C'est plutôt on part d'un paysage de chansons. Et est-ce qu'on peut créer une petite bulle musicale qui va raconter quelque chose à partir de ce paysage de chansons?
Et là, je vois que vous nous avez concocté un petit morceau, justement, de vous trois.
Voilà.
Dany Ebrel, Le Buet et Marthe Vassallo, avec Pemp Malouer Argent. Allez, j'ai essayé.
Pemp Malouer Argent, c'est-à-dire, vous allez entendre quatre versions, je crois, d'un même texte.
Oui.
Venant de nos plus ou moins nos coins respectifs. C'est même le cas là, on est allé les prendre un peu partout en Bretagne. Le mélange que vous allez entendre n'est pas complètement aléatoire, il est même en fait assez précis, mais avec une part de liberté, avec une part de relative improvisation dans la façon dont ça se superpose. Et du haut de ce morceau, de nombreuses bouffes et discussions à bâton rompu et de nombreuses rigolades aussi à toutes les trois vous contemplent.
Eh bien, c'est parti.
Schitten me mir laret ke zilon la schitten me mir laret ke zi schitten me mir laret ke zi car ben bla huie vodi me Irgera chon irgeri vil irgera chon irgeri vil Irgera chon irgeri vil Ie sur vervro sagi vil Ie sur vervro sagi vil
C'est sur ce magnifique morceau interprété par Annie Evrel, Nolwenn Le Buet et Marthe Vassallo que nous terminons ce deuxième épisode avec Marthe Vassallo. Marthe, merci beaucoup d'être venue au micro. J'espère que nous vous retrouverons bientôt.
Je pense que les astres sont bien alignés.
Et bien alors, bonne journée à tous ou bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Et à la prochaine.
C'était Musique Traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.